Canalem, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canalem pour vous présenter Aime l'été en compagnie de...
Un dénommé Kevin Breton.
Alors aujourd'hui à l'émission, une chronique sportive avec Kevin justement, et on va s'en aller au golf, on va sortir les bâtons pour peut-être frapper du monde et leur donner des petits coups sur les fesses, parce que figurez-vous que chez les pros, bon, il y en a que pour les moins de 50 ans, au golf aussi, vous pouvez demander à John Daly, ouais. Vous allez nous raconter ça, Kevin.
Certainement, il sera question de handicap et dans tous les sens du terme lorsqu'on parlera de golf. Également à l'émission aujourd'hui, on va aller rejoindre au bout du fil le fondateur d'un nouvel organisme interculturel à Matane. Il est Camerounais d'origine, monsieur Bouamboa.
Bravo.
Je l'ai pratiqué.
Je suis tellement contente que c'est vous. C'est vous qui l'ayez présenté, celle-ci.
J'ai hâte de lui parler.
Et puis, chers amis, il y a en ce moment un jeune homme qui s'est donné pour mission sur son bateau de nettoyer l'océan. Et François de Beaulieu lui a parlé et nous le présente.
Puis également, si vous avez le goût de découvrir le Québec par les routes et les sentiers cet été, on vous fait part d'un guide qui roule. En fait, Yvan Deslauriers va nous faire part d'un guide de qui roule pour nous proposer quelques suggestions accessibles.
Il y aura aussi au programme une chronique toponymie qui fait la part belle à quelques Écossais.
Puis finalement, ben notre chronique littéraire qui sera de retour à l'émission aujourd'hui.
Je descends sur la plage, le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage, le sable brûle ma peau. J'enlève mon chapeau de paille, lunettes de soleil sur le nez. Il y a du monde en pagaille, des serviettes roses et des beignets. Sur la plage, fausse alerte, circuler, c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise, biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à trois françaises, je m'allonge, je me détends.
Aime l'été, il fait chaud, par Corinne.
Effectivement. Et il fait chaud pour jouer au golf. Laissez-moi vous dire que les bâtons restent dans la voiture en ce moment. J'ai pas envie de me transformer.
C'est pas une belle météo pour jouer au golf aujourd'hui,
non, pas du tout. Ben, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends un cart, puis parfois je... je pars, puis je fais le tour du trou.
Du premier au 18e.
Non, mais pour m'éventer.
Ah oui.
Alors, parlons golf et parlons de John Daly. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce John Daly?
Ben, tout d'abord, une petite mise en contexte. John Daly, on le connaissait pour avoir joué dans la PGA, là, qui est un des tournois les plus prestigieux. Je t'apprends rien, Clotilde. Je sais que tu es une amateur de ce sport. Il y a aussi la LPGA qui est consacrée aux golfeuses. Mais il existe également un pendant senior dans lequel M. Daly joue, qui est le Champion Tour, qui est auparavant connu sous le nom de Senior Champion Tour. Donc, comme son nom l'indique, c'est réservé aux golfeurs de plus de 50 ans qui gardent encore un amour du sport et veulent continuer à pratiquer. Oui, par amour du sport, mais aussi parce qu'il y a quand même des bonnes bourses à aller chercher.
Ben, parce que c'est quand même très prestigieux. Tous les anciens sont là. Montgomery est là. En tout cas, moi, je les connais tous.
Les anciens champions.
Et John Daly, c'était un énorme champion chez les pros.
Les bourses, ça leur donne la chance de remporter en moyenne 2 millions par tournoi pour chaque vainqueur. Donc vraiment, pour une retraite, c'est pas si mal comme, comme rentrée d'argent. Si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une requête un petit peu particulière qui a fait surface dans les médias ces dernières semaines, qui concerne donc ce fameux John Daly qui est rendu à 52 ans. Il jouait dans ce circuit-là, et je dois dire jouait effectivement, parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus participer à leur événement parce qu'on lui aurait refusé un accommodement qu'il jugeait raisonnable. Je t'entendais parler de carte de golf tantôt.
Ouais, ouais.
Ben, c'est justement ça. Lui, il a aggravé une blessure au genou, dit-il, qui se serait aggravée, et aurait demandé un accommodement d'utiliser ce carte pour se déplacer, ce qui lui aurait été refusé.
OK. Alors ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il peut faire, là?
Comment le dossier a été géré par l'association, en fait, c'est qu'il prétend qu'on ne lui aurait pas fourni tous les documents ou les preuves médicales nécessaires pour accorder à M. Daly le privilège, là, si on veut, ou l'accommodement d'utiliser un cart pour se déplacer d'un trou à l'autre. Pour l'instant, on en est là dans l'histoire. On ne sait pas ce qui va s'en suivre. Mais ce qui est intéressant, puis pourquoi je suis tombé sur cette nouvelle-là, c'est que Daly se base sur une loi bien connue aux États-Unis, dont on parle souvent, qui est l'ADA, l'American with Disabilities Act, pour juger sa demande là, conforme. Cette loi-là dit effectivement qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son handicap ou d'un moyen utilisé pour pallier celui-ci, comme par exemple un cart de golf. On a un petit peu l'équivalent au Québec avec la Charte des droits et libertés, mais moins appliquée.
Mais moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Dans le cas de John Daly, bon, qui est quelqu'un qui est très, très important, il faut le dire, qui était d'ailleurs connu aussi pour ça. C'est un joueur qui boit je ne sais plus combien de bières.
Il n'a pas l'air d'un athlète.
Pas pantoute. Et ça fume sur le terrain et ça boit de la bière. Et c'est pas juste une caisse, là. C'est deux ou trois. Bon, apparemment, il se serait calmé le pompon. Il paraît qu'il aurait arrêté de fumer et de boire. Mais enfin, bon, toujours est-il que... Mais ce type-là, c'est une blessure au genou qu'il a. Je veux dire, c'est pas un athlète handicapé au départ. Est-ce que je me mets les pieds dans les plats?
Ben, selon la définition du handicap, la définition qu'on veut bien donner au handicap à la loi, c'est très, très large. Ça peut même se rendre à l'alcoolisme. On peut même faire des requêtes en cours pour alcoolisme, là, pour cause de discrimination ayant comme motif l'alcoolisme. Donc, au sens de la loi, c'est très large. Après, c'est quand même un bon point que tu soulèves. Est-ce que c'est parce que c'est des années de laisser aller dans son cas où il se tenait pas en forme, puis là, il est plus capable de passer d'un trou à l'autre qui a demandé ce cart-là, ce qui expliquerait pourquoi il n'aurait pas donné tous les documents nécessaires? On le sait pas. Tu sais, l'histoire le dit pas encore. Mais reste que...
Sur le plan éthique.
C'est très intéressant. Puis c'est pas... Il y a des antécédents quand même en la matière, parce qu'en 2001, la Cour suprême des États-Unis a donné raison un joueur, Casey Martin, pour une requête de l'ADA qui demande, à l'époque, la PGA demandait à tous les joueurs de marcher entre les élans à partir du troisième stage de la phase qualificative, parce que il paraît que ça ferait partie d'un aspect important du sport en raison de fatigue et tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi qui es une grande joueuse de golf? Est-ce que ça peut influencer les performances quand tu marches d'un trou à l'autre?
Absolument. Absolument. Surtout par les jours de chaleur, justement.
Effectivement. Hein?
Parce que, bon, c'est certain qu'ils n'ont pas apporté leur sac quand même. Il faut,
ils ont des
bien le préciser, mais effectivement, oui, ça peut changer dépendamment aussi de la configuration du parcours. Mais quand vous vous ramassez à grimper des côtes entre deux et qu'il fait 35 degrés et qu'il n'y a pas d'arbre...
Ça se peut que tu aies le souffle court,
Alors que si vous êtes en carte, mine de rien, justement, ça évente pas mal. Et puis, c'est un effort de moins.
Ça évente l'esprit, c'est vrai.
Ça évente l'esprit,
ça peut même aider à la concentration.
Ça invente tout, mais effectivement. Alors, je suis...
Mais la Cour suprême a quand même donné raison à Martin, ouais, là, dans ce cas-ci. Puis là, ben, y a plein de gens qui se demandaient est-ce que ça va ouvrir la porte à toutes, ouais, sortes d'avantages déloyaux, ouais, dans le sport. Puis je trouve que c'est quand même intéressant, ouais, d'en parler parce que, bon, parmi les personnes, la Cour suprême a voté 7-2 dans sa décision. Puis parmi les personnes qui avaient voté contre en 2001, contre Martin, il y en avait qui disaient oui, mais là, est-ce que ça va ouvrir la porte à des joueurs de baseball dans les petites ligues qui sont TDAH, puis que leur médecin dit que leur concentration est 25 % plus basse, donc ils auraient droit à 4 retraits plutôt que 3. Il y avait peur, en fait, que ce genre de porte-là crée un précédent.
Vous en pensez quoi,
puis
vous?
Qu'on dénature le sport. Moi, je pense qu'il faut quand même faire confiance aux juges là, qui, ouais, qui ont rendu, ouais, cette décision-là. Je sais qu'effectivement, ça peut avoir une incidence sur les résultats, puis les performances, les distances qui sont marchées, mais en même temps, je pense qu'on dénature pas le sport du golf, mm-hmm, tu sais. Mm-hmm. Ça reste quand même assez secondaire. L'élan de golf, la précision, la stratégie, tout ça, on touche pas à ça du tout. Ça, mm-hmm, reste quand même la même chose. Tu sais, moi, j'essaie de comparer, admettons que moi, je voudrais jouer au quai et puis qu'on installerait une rampe, tu sais, les fameuses rampes qu'on voit dans les quais là, pour les personnes handicapées. Ouais. Si j'étais très, très bon avec ça, est-ce qu'on me permettrait de jouer avec ça dans une autre ligue où on, ouais, considérerait, ouais, que c'est pas le même sport en quelque sorte? Tu sais, c'est
on,
dur.
On en revient même lorsque, comment il s'appelait, Pretorius, là,
celui, oui, Oscar Pretorius,
hein,
oui,
qui courait avec ses prothèses, et il, ouais, y en a qui avaient dit, ouais, mais il y a quelque chose qui marche pas, c'est comme s'il avait deux ressorts aux pattes, là.
Bien sûr, parce qu'au début, il y a, hein, déjà, on l'a vu à l'œuvre aux Jeux Olympiques, mais aux Jeux Paralympiques et aux Jeux Olympiques, ouais, par la suite, les championnats mondiaux d'athlétisme ont décidé que non, c'était pas considéré comme admissible d'avoir un athlète qui utilisait des prothèses ou, ouais, des palmes, ouais, comme, ouais, dans son, ouais, cas, ouais, ouais, pour courir, mais tu sais, avec comment l'être humain évolue, la technologie, ouais, ça va devenir un, ouais, débat qui va être soulevé, ouais, de, ouais, plus en plus. Tu sais, on peut parler aux implants cochléaires, toutes ces choses-là. Est-ce que ça va un jour donner un avantage supplémentaire dans des sports où l'ouïe est très important, par exemple, ou l'œil bionique, toutes ces choses-là,
ouais, ouais,
les,
ouais, ouais,
les,
ouais,
jambes. Tu sais, à un certain moment donné, peut-être que les personnes handicapées, ça va être les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se permettre d'avoir des jambes du futur, tu sais. Peut-être qu'on va considérer les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces technologies-là comme, ouais, les désavantagés. Mais je pense pas qu'on est prêt de voir ça au soccer, de, non, voir des espèces de robots humanoïdes jouer.
Non,
là,
non, 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 non. On
ne
sera plus de ce monde, mais oui, c'est intéressant parce que c'est sûrement l'avenir. Je voulais juste dire une chose en parlant du golf, c'est que je m'insurge toujours contre le fait que effectivement, on parle très peu des seniors qui sont quand même tous des anciens énormes champions. Mmh. Lorsque Tiger Woods va avoir 45 ans, il va partir chez les, ouais, seniors, 45 ou 50 ans, et on ne parle jamais des femmes.
C'est vrai.
Savez-vous,
hein,
que Annika Sørenstam a gagné plus de tournois dans sa vie que Tiger Woods dans ses meilleurs moments?
Est-ce que tu dirais que cet écart-là de visibilité est plus grand que, par exemple, au tennis? T'sais, j'ai l'impression qu'au tennis, ça, on a comme un peu regagné du terrain.
Oui, on a gagné du terrain.
Mais au golf, pas tant encore.
Pas tant que ça. Par contre, au golf, les bourses, je pense, sont assez les mêmes. Et ça m'amène au deuxième point avant qu'on finisse sur le sujet. C'est que c'est un petit peu comme au cyclisme. Oui, celui ou ceux qui arrivent en tête, ils font un fric fou.
Ouais.
Mais il faut penser que derrière, ça coûte une fortune, ouais, pour se déplacer. Et quand ils gagnent 2 000 $ à un tournoi, aussi prestigieux soit-il, eh bien, ils ont tout payé de leur poche.
Ça répond, ouais, c'est ça.
Le cadet, le tous les... Alors, il faut aussi savoir que pour arriver là, il y a tous ceux qui rament derrière. Mmh. J'avais juste envie de préciser...
Le sport, c'est une business, mais des fois, on peut quand même prendre son propre sac de golf, aller jouer pour le plaisir, pas gagner de bourse. Puis c'est là que le sport a toute sa valeur.
Et c'est là que vous me donnez une sacrée idée pour cet après-midi.
Ce matin, en te réveillant, tu as voulu, j'ai libéré, oh. Du biki qui a beau rater le rapole, c'est le million d'yem, beau habibé. Alors, diabona, 4 du matin, loin mon téléphone.
champignons que tu veux dehors. Si c'est les lolo,
j'en ai.
Si c'est les ndombolo,
j'en ai.
Si c'est les bocha,
j'en ai.
Ma zone le i-i,
j'en ai.
Et puis le
en-en, j'en ai.
Et le tiki-tik,
j'en ai.
Le diakoro, ma zone j'aime et mon bonus. J'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolo de Fonny, le dent de Chantou, les hanches de Beyoncé.
J'en ai.
Si c'est le bocha,
j'en ai.
Ma zone le i-i,
j'en ai.
Et puis le en-en,
j'en ai.
Et puis le tiki-tik,
j'en
ai. Ma zone j'aime et mon bonus. J'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolo de Fonny, le tang de Chantou, les hanches de Beyoncé, le coup de rein de Shakira. Made in Yaoundé, made in Douala, made in Bamenda, made in Garoua, made in Bertoua, big man en Colondoua, made in Cameroun. Tu vas devenir obéissant. Piloter, je vais te piloter. Je vais te tourner ça. Je vais t'éduquer. Je vais te dresser. Tu vas devenir obéissant. Coco argenté, la go de oué très très fort. Les dames.
Médine, oui, Médine Cameroun par Coco Argenté.
On va demander à M. Mbouambou qui est au bout du fil, est-ce que vous connaissez Coco Argenté?
Monsieur... Oui, oui.
C'est vrai?
Oui, c'est une artiste camerounaise
oui.
Très, très reconnue. Et...
Eh bien, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était pour vous accueillir sur les ondes de Canal M. Kevin Breton et moi-même, Clotilde Sey, bonjour. Est-ce qu'on peut vous appeler Mahmoud?
Oui,
qui est votre prénom, ça vous dérange pas?
Oui, tout à fait.
Bon, j'ai d'abord une question à vous poser qui va être une question de prononciation, si vous le voulez bien. Le M devant les noms au Cameroun ou dans d'autres pays, il ne se prononce pas, hein?
Ben oui, il est généralement muet.
C'est vrai? Comme par exemple oui. le désormais très célèbre Camerounais Mbappé, on devrait juste l'appeler Bappé?
Bappé, oui, c'est ça.
Ah
c'est,
ouais.
C'est pour ça que normalement, les journalistes français, quand ils appellent Mbappé, nous, en tant que Camerounais, on dit non, le M ne se prononce pas. Parce que,
ça vous fait Mbappé. Rigoler, quoi.
Donc, Mbappé. Bon. Je suis tellement content qu'on ait éclairci cette question.
Je suis tellement... Écoutez, je vais leur écrire.
Déjà, le partage culturel, là, c'est merveilleux.
Parce que, dans le fond, par exemple, moi, je m'appelle Mbombo Fombam. Si on regarde mes deux noms, il y a MB, il y a MF. Ben, les personnes vont chercher à prononcer Mbombo, Mfombam.
Ouais.
Les deux M sont muets, c'est Mbombo Fombam.
Et d'où ça vient ce M là? Est-ce que c'est parce qu'il y a parfois on s'appelle, je sais pas moi, Lucien R pour Robert Tremblay. C'est d'où ça vient, savez-vous, Mahmoud?
Je suis pas très...
Ok,
très
c'est tout, d'accord. Je vous ai mis dans l'embarras.
Je pense que c'est oui. Comme au français aussi, au Québec, on a des H muets.
Ouais, c'est ça.
Écoute, d'après moi, ça vient possiblement
voilà.
Du même type d'étymologie, là.
Mahmoud, oui, on voulait vous parler parce que vous avez initié des rencontres et un organisme interculturel qui nous a séduit beaucoup. On va commencer par le début. Vous êtes arrivé à Matane il y a combien de temps? Parce que c'est à Matane que ça se passe.
Oui, il y a de cela 2 ans et demi déjà.
Oui.
Oui. Que je me suis installé à Matan grâce à un travail que je trouvais. Ben avant d'arriver à Matan, j'étais d'abord au Saguenay.
D'accord.
Oui, à Chicoutimi.
OK, donc vous êtes au Québec depuis déjà pas mal de temps maintenant.
Oui, 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 environ 5 ans, oui.
Oh, ben c'est quand même assez récent. Vous êtes arrivé directement du Cameroun?
Oui, directement du Cameroun pour Chicoutimi.
Pour Chicoutimi, monsieur. Oui. Alors, vous, excusez-moi, mais vous avez fait quoi? Vous vous êtes mis, comme à un moment donné, Richard Desjardins, devant une carte, et puis vous avez dit, je vais, là où je mets une punaise, c'est là que je vais tomber. Et vous êtes tombé à Chicoutimi? Comment on arrive quand on part du Cameroun à Chicoutimi?
Ben, parce que dans le fond, quand on arrive toujours en chef des régions, là où on parle plus français,
oui.
Parce que, étant à l'extérieur du Canada, on se dit qu'à Montréal, c'est plus l'anglais. Mm-hmm. Et la plupart des ressortissants des pays francophones visent plus le Québec et des régions des alentours du Québec.
Quelle bonne
Donc,
idée.
Déjà, quand je partais, j'avais des amis là-bas, j'avais aussi une amie là-bas, donc directement, je n'avais aucune raison que de me rendre au Saguenay.
Mm-hmm.
Et voilà, je suis arrivé au Saguenay,
et ensuite...
j'ai aimé la région, et par la suite, j'ai un peu fait un tour à Saint-Gédéon-des-Beauce.
Ah, oui, mais je suis Beauceron, moi.
Mais oui.
Je connais bien Saint-Gédéon, j'ai de la famille qui a grandi là-bas. Est-ce que vous avez aimé ça, Saint-Gédéon?
Ben, je suis un habitué des régions d'où j'ai été aussi attiré par ma tante après avoir obtenu un travail. Non?
OK. Donc, à cause de la crevette ou... Non, hein, à cause d'un travail.
Que ça soit des crevettes, que ça soit du travail, que ça soit de la beauté, du fleuve.
Oui, c'est magnifique. Ouais.
C'est plus pittoresque quand même, Matane, que Saint-Gédéon. Sans rien enlever à ma patrie natale de la Beauce, reste que Matane avec le fleuve, c'est un petit peu plus beau à l'œil, là.
Oui, oui, c'est plus beau, mais chaque région a sa particularité.
Oui, vous avez raison.
La même chose, quand j'étais à Saint-Gédéon-des-Beauce, j'ai aimé parce que tout était à 3 minutes de moi, là, et... Tout était centralisé au centre-ville et moi j'ai aussi aimé que ça soit Chicoutimi, ça aussi sa particularité et Matane aussi plus sa particularité. Donc,
Mahmoud,
je suis un habitué des régions, oui.
Est-ce que c'est difficile de s'intégrer au Québec en région? On ne parle pas de Montréal, vous êtes installé en région. Est-ce que c'est difficile pour un Camerounais?
Ben, je dirais oui et non.
Oui.
Ben, je dirais oui et non. Non, pourquoi? Non, que si la personne se donne, la personne s'intègre au milieu de la communauté, la personne se dit « Ok, j'ai rencontré une communauté d'accueil, je dois aller vers eux », c'est moins difficile. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, les Québécois sont quand même accueillants,
mm-hmm.
mais parfois, il faut toujours installer ces ponts-là pour aller vers eux,
mm-hmm.
pour pouvoir discuter avec eux, mieux s'intégrer. Ça, c'est dans l'autre côté. L'autre côté où je disais le oui, c'est au niveau des chocs culturels.
Oui.
Comprenez un peu, que ce soit choc culturel, que ce soit le choc climatique, on a souvent cette difficulté-là parce que des personnes qui viennent des pays chauds et qui arrivent ici en été, ils ne savent pas ce qu'ils ont, à quoi s'attendre pendant l'hiver. Et quand tu ouvres ta porte le matin, tu vois 30, 40 centimètres de neige devant ta porte là. Généralement, c'est ça qui rend le plus stressant et...
Ouais.
Qui,
je peux comprendre,
qui
dérange, c'est, oui. Ça doit être complètement perturbant même.
Oui.
Bon. Et est-ce que c'est donc de tout cela que vous avez créé cet organisme pour lequel nous vous avons invité, donc un organisme interculturel, hein, pour réunir dans cet organisme-là des personnes qui, comme vous, viennent d'origines diverses. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer cet organisme-là? Quelle est sa mission?
Ben, dans le fond, oui, on peut résumer, mais n'est pas résumé jusqu'à dire ben c'est juste des personnes issues de l'immigration.
Non, OK.
Ou peut-être des personnes juste issues des origines africaines, non.
Mm-hmm.
Dans le fond, il faut déjà rappeler que l'organisme, c'est l'initiation ou l'initiative des Africains,
oui.
Donc des maternels ou des Canadiens oui. d'origine africaine, parce que ce pays nous a accueillis et nous a donné la nationalité, nous a donné du travail, nous a donné toutes sortes d'affaires. Donc c'est l'ensemble de cette communauté-là qui mène la mission de l'organisme, ça veut dire répondre aux besoins de la communauté d'accueil.
Et ça s'appelle Berceau de nos ancêtres. Que oui. C'est joli.
Oui, donc c'est pour réunir et répondre aux besoins de la communauté d'accueil, de la communauté immigrante. Et nous voulons aussi bâtir une société libre, respectueuse et prospère et contribuer à la richesse du Canada aussi. Et nous allons fournir quelques éléments essentiels à la vie, à la population locale et à la population immigrante. Nous allons aussi aider des résidents ou des personnes nouvellement installées dans leur démarche de citoyenneté canadienne. Et nous avons aussi pour mission d'organiser les voyages humanitaires en Afrique.
OK, aussi.
Oui.
Et justement, quelles sont les prochaines activités?
Dans le fond,
on parle de ça?
Oui, oui. Ben, les prochaines activités, déjà, c'est le mois d'août. Mois d'août, le 4 août prochain, nous allons participer au festin de rue ici à Matane, sur l'avenue Saint-Jérôme. Et le 25 août, c'est un samedi, nous allons aussi participer au salon de loisirs et le 26 août, nous organisons une danse sportive au parc des îles de Matane. Toute la population de tout âge est invitée. L'activité est gratuite et ouverte à tout le monde.
Vous avez aussi en tête de mettre à profit toute la richesse culturelle des personnes immigrantes au profit des personnes aînées de votre région en organisant des soirées auprès d'elles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement?
Oui, justement, dans le fond, on se dit, nous qui venons d'ailleurs, nous avons aussi notre part de connaissance, notre part d'expérience. Qu'est-ce que nous pouvons apporter aux personnes handicapées, des personnes âgées ou des enfants qui sont dans les maisons des familles ou des jeunesses? C'est pour ça que nous avons décidé que nous allons aller vers cette personne-là. Nous allons organiser des contes africains, des séances de djembé pour permettre à ces personnes-là d'avoir toujours le sourire, d'avoir l'espoir de vivre et de ne pas se sentir tout seul ou abandonné. Donc, nous allons commencer cette activité-là vers fin septembre, début octobre.
C'est ce qui s'appelle l'inclusion et la diversité.
Voilà, la diversité culturelle, oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Mahmoud, Monsieur Bouambo. Là, je l'ai bien dit, je pense.
Bombo.
Oui.
Bombo.
Oui.
Oui.
Mais un jour, je vais finir par l'avoir. Pardonnez-moi. Mahmoud, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Longue vie à cet organisme dont je rappelle le nom, le berceau de nos ancêtres. On vous trouve facilement sur le net?
Oui, on nous trouve facilement sur le net, sur le nom de ABNA, A-B-N-A.
Oui.
Oui.
D'accord, comme
Facebook,
comme berceau de nos ancêtres. Mm-hmm. Voilà,
ouais,
donc c'est l'acronyme. Merci infiniment. Bonjour à tout le monde à Matane et bonjour à tous ceux qui vous entourent et qui participent activement à cet organisme-là. Merci et bravo.
Bravo, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, en seconde partie de cette émission, Clotilde Seig, d'abord, rebonjour en compagnie de l'ami...
Un dénommé Kevin Breton.
Yvan Deslauriers va vous inviter à découvrir des destinations accessibles à toutes et à tous, parce que vous savez qu'ici à Canal M, quand on dit tout le monde dehors, c'est tout le monde. Et puis, dans quelques minutes, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. François de Beaulieu est notre témoin et nous présente un jeune homme qui navigue en ce moment même et qui s'est donné pour mission de nettoyer l'océan. Rien de moins. Mais d'abord, histoire de nous mettre sur le chemin de ce jeune homme-là, cette chanson d'Agnès Bill.
Liberté, égalité, fraternité. La France est un pays riche en pauvres. C'est vrai qu'on viole la planète et qu'on vide les hommes. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard les enfants, mais plus pour très longtemps. Quand on mange en direct une info qu'on déforme. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Il n'est plus question de confort quand le goudron bouffe le sable et quand il pleut des oiseaux morts et l'homme qui devient jetable. C'est comme une évidence, on est tous concernés. sa planète en danger. Quand c'est la terre qu'on enterre et la nature qu'on dénature. Et quand l'air est foutu en l'air et qu'on va tout droit dans le mur. Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard et pourtant, ça fait tellement longtemps qu'on nous vide la tête. Il faut que l'on consomme, alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Aujourd'hui sonne, sonne l'heure, on va faire sauter les œillères de tous les pantouflés du cœur qui ne voient même plus que la terre. La terre qu'on a connue ne vaut presque plus rien. Le pain ne coûte plus une bouchée de pain. Car si l'on ne prête qu'aux riches, on fait crédit à la misère. À force d'être des caniches ou des moutons qui vont se taire. Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. On sera 100, plus de 100 000 dans les campagnes et dans nos villes. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. Il faut agir, et c'est maintenant, pour la planète et nos enfants. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins.
L'avenir est entre nos mains et François de Beaulieu peut en témoigner, surtout avec un jeune homme qu'il va nous présenter. Maintenant, bonjour François.
Bonjour Clotilde et merci de m'accueillir à nouveau sur Canal M.
Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde?
Absolument, comme chaque semaine. Et ce que je vous propose effectivement aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller à la rencontre de Julien Vosnitsa, qui est un jeune Français, 24 ans. Et puis, je vous propose de l'écouter pendant notre émission à partir ce sont des extraits donc d'un entretien que j'ai réalisé avec lui il y a quelques semaines. Mais si vous le permettez, dressons la table.
D'accord.
Tout de suite. Qui est-il? Eh bien, ce jeune homme se préparait à embrasser une carrière dans la finance, le croyez-vous? Et puis, à un moment donné, à force de regarder à droite et à gauche et de voir le monde souffrir, et puis l'humanité souffrir aussi, il s'est dit que ce n'était pas possible. Le monde de la finance est un monde relativement aride, qui est de plus en plus déconnecté avec le réel, et ça ne pouvait pas lui convenir. Alors, il a décidé de remettre en cause donc ce choix professionnel. Que faire? Il avait en lui le besoin impérieux et bien de contribuer au changement. Alors, une quête qui s'est mise en route et puis il s'est jeté à l'eau, si vous me permettez l'expression. Pour ensuite prendre tout le large à partir sur un bateau de Sea Shepherd, qui est, vous savez, cette organisation créée par Paul Watson, l'un des anciens cofondateurs donc de Greenpeace. Et je vous propose de l'écouter maintenant. Il va nous expliquer comment donc toute cette aventure a commencé sur l'un des navires donc de Sea Shepherd.
Ce qui m'a aidé dans ma réflexion une fois sur les bateaux. Sur les bateaux, nous, on était en prise directe avec les braconniers dans le nord de la mer de Cortés, au Mexique. Et en prise directe avec les braconniers, c'est pas tous les jours facile. C'est des choses qui peuvent être dangereuses. On est en prise directe avec la face un peu la plus sombre de l'humanité en face de nous, des gens plus ou moins sans foi ni loi qui ne pensent qu'au profit financier, et ce même au prix de l'extinction de une ou plusieurs espèces. Et donc forcément ça force à la remise en question, ça force à avoir une réflexion qui est d'un point de vue presque philosophique sur l'humain et sur sa présumée bonté.
Je voudrais préciser, il est sur le bateau au moment où vous avez réalisé cette entrevue, il était sur le bateau?
Non, il allait partir. J'avais pu le rejoindre avant, il était encore en France lorsque nous avons réalisé cet entretien et les extraits que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Mais ce que je vous propose donc maintenant, c'est qu'il nous explique aussi comment cette quête que j'ai évoquée tout à l'heure s'est poursuivie, parce que sa réflexion, il est au cœur d'une action, et il continue de nourrir sa réflexion, et ça donne naissance à un livre. Un livre qu'il écrit lors d'une deuxième campagne sur l'un des navires, donc de Sea Shepherd. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Le titre, il va nous le donner, mais je vous le précise d'ores et déjà, il s'agit de « Pourquoi tout peut s'effondrer », qui a été publié en France au Lien qui libère, et qui est du reste préfacé par Paul Watson lui-même.
Oui, lors de ma deuxième phase avec Sea Shepherd, puisque j'y suis parti une première fois 6 mois et une deuxième fois 4 mois, lors de la deuxième fois, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi tout va s'effondrer ?», qui est le fruit d'une analyse de 3 ans sur différents sujets qui sont à la fois donc de l'énergie, de l'état des océans, de la problématique des métaux rares, enfin, tout un tas de sujets contemporains, l'agriculture, tout ça. Qui amène, selon plus ou moins un consensus scientifique, à un effondrement de notre civilisation. Et ce, à une échelle de temps qui va nous concerner. Quand je dis nous, c'est toute la génération qui a moins de 40 ans aujourd'hui. On va vivre de plein fouet cet effondrement. Ma génération à moi, donc ceux qui ont entre 20 et 30, vont vraiment se la prendre en pleine face, et c'est ce qui reste d'être un peu compliqué de notre côté.
Alors, il est clair que notre ami donc a goûté à la mission de Sea Shepherd en étant au cœur de l'action sur les navires. Il a contribué avec ce livre à formaliser en fait cette réflexion qu'il menait. Restez maintenant à basculer dans l'action, mais dans son action. Mmh. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant avec lui, car il a décidé effectivement d'affréter un premier navire et de partir sur les océans pour les dépolluer, pour les débarrasser du plastique. Alors, le projet est ambitieux, mais il faut commencer par quelque chose. Et je vous propose de l'écouter maintenant nous expliquer comment, avec ce premier navire, il va contribuer à dépolluer les océans.
Alors, le Kraken, c'est un navire, un voilier, un trois-mâts de 47 mètres de long, avec lequel nous souhaitons effectuer à la fois de la dépollution plastique, de l'éducation au plastique, à travers différents soit films, soit plans d'éducation dans différentes îles, faire du transport à la voile et effectuer des recherches scientifiques qui sont à la fois sur les zones où les zones infectées de plastique ou sur les différentes zones de l'océan dans lesquelles il y a de moins en moins d'oxygène. Donc l'idée, c'était d'avoir une plateforme, une énorme plateforme qui donc se trouve être le trois-mâts pour effectuer toutes ces actions avec un équipage professionnel et dans lesquelles surtout. Le gros point, c'est que c'est un navire école, c'est-à-dire que n'importe qui, de suffisamment motivé, puisse venir sur le navire et participer à l'action.
Waouh, c'est vraiment cool!
C'est cool, hein?
Un navire école!
En plus!
Absolument. Alors, le projet, évidemment, s'est précisé. Le Kraken, ce fameux trois-mâts dont notre ami Julien vient de nous parler, a été acheté. Il est actuellement à Amsterdam. Et puis une première campagne, eh bien, va être organisée et va débuter. Alors notre ami Julien va nous en donner le détail et vous allez découvrir qu'effectivement le projet est ambitieux, mais avec de la ténacité, avec de la volonté, on arrive effectivement à ces résultats. Alors précisons, puisqu'il nous a évoqué un équipage de professionnels, précisons qu'effectivement il a à ses côtés Sébastien Faux, qui est un marin confirmé avec toutes les certifications nécessaires, et puis également dans son équipe une océographe, une jeune femme océographe, qui va être là et dont le rôle est évidemment aussi très important, parce que il va s'agir de faire des analyses à la fois sur le bateau et ensuite en arrivant à destination. Et je vous propose de l'écouter, il va nous donner maintenant les dates et le détail donc de cette première campagne qui va débuter très très rapidement.
Le voyage du Kraken qui va partir donc d'Amsterdam le 3 octobre, qui va charger des denrées alimentaires, puisqu'on va effectuer aussi du transport à la voile qui va charger des denrées alimentaires et du vin à Saint-Malo. Et ensuite faire un parcours qui va l'emmener donc d'Amsterdam, Saint-Malo, Lisbonne. Il va passer dans différentes îles que sont Madère, Canaries, Cap-Vert. Du Cap-Vert, on va effectuer une transatlantique vers la Guyane et ensuite remonter dans les Caraïbes vers Saint-Vincent et les Grenadines et passer Noël à Grand Caïman. Voilà, donc ça, c'est le premier voyage. Cependant, ensuite, à partir de janvier prochain, donc c'est un voyage qui va s'effectuer entre le 3 octobre et le 19 décembre. Et à partir de janvier prochain, on va effectuer un plan de dépollution dans les Caraïbes, et notamment avec un partenariat avec le Honduras, avec le gouvernement du Honduras, pour récupérer une énorme plaque plastique qui se trouve au large du Honduras. Mais durant notre voyage, l'idée, c'est également de faire des prélèvements d'eau et de pouvoir les analyser soit sur le bateau, soit avec un institut océanographique.
Alors voilà, le bateau donc va prendre le large prochainement. Ce que j'ai trouvé remarquable, évidemment, dans la démarche de notre ami Julien, c'est à la fois cette mission qu'il se propose d'accomplir, mais le fait aussi que ce bateau puisse accueillir, pourquoi pas vous, Clotilde, pourquoi pas moi-même, c'est-à-dire en clair, des civils qui voudront simplement partager à la fois cette mission, parce qu'elle signifie aussi beaucoup pour eux, les mêmes valeurs, mais aussi le sentiment d'être là et de contribuer concrètement à faire quelque chose. Alors, c'est un bateau école aussi. Je crois savoir que notre ami Julien propose un frais de 100 euros par jour pour toutes les personnes qui voudront se joindre à l'équipage. 100 euros avec tous les repas, avec le plaisir de naviguer. Je pense que c'est extrêmement raisonnable.
Juste pour être sur un bateau, c'est quand même raisonnable. Écoute, en plus, si on contribue à l'avenir de la planète.
Oui, absolument, absolument. Puis, c'est une belle démarche.
Si je peux me permettre une petite parenthèse rapidement. T'sais, on parle beaucoup de pollution des océans, puis il y a une campagne qui a fait parler beaucoup à propos des pailles de plastique qui polluent dans les océans. Ça fait jaser beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées pour lesquelles les pailles sont nécessaires pour pouvoir boire parce qu'ils n'ont pas de mobilité dans les mains, ils n'ont pas de motricité fine. Et en fait, on a fait des calculs. J'ai vu un article que, bon, ça reste quand même que si on peut l'éliminer, cette pollution-là, tant mieux, mais c'est très, très peu significatif. C'est 0,03% de toute la pollution dans l'océan qui est causée par les pailles de plastique versus 40% de la pollution dans l'océan qui est causée par des pêcheurs. Donc, tu sais, moi, j'aimerais juste qu'on puisse davantage tourner notre attention sur le gros problème, là, sur les compagnies de pêche qui polluent avec des instruments qui se retrouvent dans les mers plutôt qu'on retire aux personnes handicapées leur facilité à boire leur liquide comme il se doit.
C'est un bon point. Je lisais encore, j'écoutais ce matin un reportage sur Facebook qui nous vient de Radio-Canada qui nous disait que là, par exemple, dans la dernière minute au cours de laquelle nous étions ensemble et que nous parlions ensemble, il a été bu 1 million de bouteilles d'eau sur la planète.
Ouais.
Comment voulez-vous? Il va bien falloir qu'elles se retrouvent quelque part, ces bouteilles d'eau.
C'est pas comme s'il n'existait pas une solution de rechange facile sous la forme d'une gourde. Là.
Voilà. D'où l'importance, François, d'avoir rencontré ce jeune garçon-là et cette mission essentielle. Effectivement, ce sera une goutte d'eau dans l'océan, si vous me permettez cette métaphore un petit peu bancale, mais mais bravo. Bravo, et puis bravo à vous de nous l'avoir présenté. Je vous rappelle que vous avez une chronique hebdomadaire diffusée sur Facebook qui s'appelle « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde ».
Absolument. Puis-je simplement ajouter une chose?
Oui.
Cette goutte dans l'océan, c'est ce que l'on appelle la goutte du colibri.
Oui, oui, oui.
Et chacun, avec cette petite goutte-là, peut faire une différence. Voilà.
Merci François.
Merci à vous.
J'annule la chambre à part, je sors me joindre à l'affluence, me poser sur la branche, au risque de me trouver à l'étroit. Faudra se serrer comme une forêt vierge, faudra se mêler de lianes infinies. Thank you. peur de l'eau qui dort. Je prépare mes hameçons, mon bouchon et consort. Sa mort, sa foule et faire de sens. Au gardant à la torche, au risque de me trouver. Faudra se serrer comme une forêt vierge. Faudra se mêler de lianes infinies. Effet de serre, avis ouvert, sa mère et bréché.
Dehors, Alain Bachung.
Oui, dehors, pour tout le monde dehors, puisque oui, dehors. C'est un petit peu ce que vous allez nous dire, Yvan Deslauriers, oui, je vais le dire. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Clotilde.
Alors, tout le monde dehors.
Bonjour, Kevin.
Salut.
Oui, excusez-moi, j'ai eu la Kevin. Oui, non, vraiment.
Puis surtout qu'on partage des champs d'intérêt communs.
Toi et moi, vraiment?
Oui.
Lesquels?
Ben, le jeudi, quand je fais les Voix de service magazine, je parle d'activité physique à l'extérieur. Juste à l'extérieur.
Ah, okay.
D'activité physique. Fait que je suis toujours curieux de savoir si je prends de tes sujets.
Ah oui, du auto-signal, donc.
Oui, oui.
Ah, super. Oui, oui, oui. Je suis content d'apprendre ça.
Et c'est Kevin qui va mener le bal.
C'est moi qui va mener le bal,
mieux,
parce que moi, j'essaie de me remettre en forme l'été, puis j'essaie d'explorer davantage les petits raccoins du Québec, mm-hmm. les coins méconnus. Puis aujourd'hui, Yvan, tu viens nous parler d'un guide que tu as publié par Kéroul en collaboration avec l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. De quoi s'agit-il?
C'est le plein air, selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en 2017, donc c'est vraiment une définition toute récente, c'est une activité physique qui est pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec les éléments de la nature.
Mm-hmm.
Alors, le guide va va expliquer comment aménager des sites de plein air de manière à ce qu'ils soient accessibles aux personnes handicapées, quel type de matériel se procurer pour répondre à ces différents besoins, comment intégrer ces clientèles dans les activités régulières. Alors, Kéroul s'est associé à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, l'AQLPH, et avec le soutien financier du ministère de l'Éducation, du loisir et des sports, pour lancer un guide sur le plein air accessible. Ça a été lancé à la fin du mois de mars.
Donc, ça s'adresse, par exemple, à tous les parcs, à tous les lieux de plein air qui voudraient faciliter leur accès à une future clientèle en fauteuil roulant ou avec un handicap quelconque.
À une future ou à une actuelle clientèle,
pour améliorer l'expérience.
D'une part. D'autre part, moi, je l'ai lu en... la mère de Mary, ma belle-mère, c'est une personne qui aime marcher mm-hmm. sur une plage, qui aime se promener. Puis, on a trouvé des moyens... Puis, c'est une personne âgée. Alors, on a trouvé des moyens pour faciliter cette mm-hmm. activité-là. Alors, j'ai trouvé... Moi, j'ai lu ce guide-là en ayant en tête mm-hmm. l'utilisateur, pas seulement celui qui va aménager...
Concevoir, oui.
Alors, je vais vous parler un peu du guide, mais j'ai des exemples d'endroits, comment ils ont adapté leur facilité pour permettre à des personnes, peu importe leurs conditions, mm-hmm. de pouvoir bénéficier du plaisir du plein air.
Quand on dit tout le monde dehors, c'est tout le monde.
Vraiment tout le monde. Alors, l'expression La différence est dans les moyens plutôt que dans les aspirations. Ça résume très bien l'approche qui est présentée dans ce guide-là. Le guide se penche sur les obstacles qui sont rencontrés par les personnes ayant une déficience motrice, mais ça ignore pas pour autant les autres types de déficiences, que ce soit auditives, visuelles, intellectuelles. Et si je me range jusque-là, je vais vous donner un exemple qui se passe même en Australie, mm-hmm. pour les gens qui souffrent du spectre de l'autisme. Mm-hmm, en fait, c'est pas, ils ne souffrent pas.
Mm-hmm. Ils vivent avec, oui.
C'est ça. Alors, puis là, je suis rentré dans un champ qui m'a vraiment fasciné. Kevin, tu parlais de faire du sport l'été. Mm-hmm. Puis là, je vais vous en sortir des quelque chose. Mais il y a aussi l'hiver. Alors, il y a des... Ça fonctionne par fiches. Dans les fiches, on voit pour les gens qui ont des facilités, comment adapter leurs différentes leur champ ou leur maison pour mm-hmm. accueillir une clientèle diversifiée, mais aussi pour les personnes elles-mêmes, quelles sortes de sports ils peuvent faire. Alors, juste par exemple pour l'hiver. L'hiver, là, les fiches, on va voir. Attendez que j'y arrive.
Il va y arriver.
Et je vais y arriver. Par exemple, à Aoka, on peut utiliser, ça s'appelle le ski-vel. C'est une façon de placer une chaise roulante sur des skis. Tiens, je la montre.
Oui, je le vois ici. Tiens,
pour permettre à des gens de pousser sur ce véhicule.
Mm-hmm. Ah oui.
Puis pouvoir aller dans des sentiers de randonnée pour...
Tu ferais ça, toi, hein? Kevin?
Oui, je sais pas. Est-ce qu'on doit nécessairement avoir quelqu'un qui nous pousse ou on a accès à notre propre mobilité quand on est sur ces skis-là? Est-ce que je pourrais me propulser moi-même?
Avec des bâtons?
J'ai l'impression. Avec des bâtons, je sais pas. Mais là, c'est parce que ça dépend du dénivelé.
Oui, bien sûr.
Casse-cou comme t'es, toi, Kevin.
Ouais,
toi, je te verrais bien dévalant une pente.
Mais l'hiver, on parle aussi de ski alpin.
Oui.
Mm-hmm. On parle de traîneaux à chiens, des choses de ce genre-là. Mais là, on est l'été. Alors, l'été, qu'est-ce qu'il y a dans le guide qui touche particulièrement à l'été? Alors, il y a la randonnée pédestre, il y a le camping, les aires de jeu, le cyclisme, là, le cyclisme avec les tandems, si on a une idée, l'équitation, l'escalade. L'escalade adaptée est un excellent sport pour découvrir les forces de son corps tout en repoussant ses limites. Puis là, je parle... J'ai l'impression de ne pas parler même pour les personnes handicapées. Là, je m'écoute moi-même.
Ouais.
Avancer demande d'apprendre à balancer son poids, coordonner ses mouvements, se faire confiance. C'est un sport qui est bénéfique pour le cerveau, car le participant doit toujours réfléchir à son prochain mouvement. On parle de chasse. Puis là, on se dit, là, il semble que la chasse adaptée n'est pas à prime abord considérée comme une activité adaptable, principalement parce qu'elle a lieu en pleine nature et qu'elle exige beaucoup de précision. Pourtant.
Mais on peut faire ça ici au Québec, là?
Oui, la précision demandée peut être acquise avec, des bonnes adaptations.
Est-ce que c'est l'arme, dans ce cas-là, qui est adaptée? Ou... Parce que moi, j'imagine une arme longue, c'est un peu difficile à porter quand on a une mobilité restreinte.
Oui, peut être le type d'arme, mais c'est la position aussi.
Okay.
Une fois que tu es assis confortablement, avec une arme qui correspond à ton physique, tu peux faire de la chasse de la même façon que d'autres personnes.
Mmh. Puis?
Là, je vous amène...
Ben moi, tuer des animaux, je veux pas. Mais par contre, tirer sur des cibles, je veux bien.
Ça, c'est une autre affaire.
Tu sais, genre une phase de... Enfin bon, j'ai pas dit.
Là, je vous amène... Prenons des exemples vraiment pratiques. Je vous amène au parc Forillon.
Bon.
Dans la région de Québec.
Voilà.
Le parc Forillon, c'est situé sur la péninsule qui donne sur le fleuve Saint-Laurent, ça on le sait. Puis c'est un bon exemple de parc adapté. La majeure partie de ces bâtiments de services et des centres d'accueil est accessible, mais ce sont les mesures prises par le parc qui les différencient, surtout dans le secteur Pénouille. Les infrastructures ont complètement été remises à niveau, les portes ont été automatisées, des toilettes sont accessibles, puis le bâtiment d'accueil est situé au sommet d'une butte. Mais l'attrait principal, c'est dans la presqu'île en bas, où les passerelles en bois et des sentiers accessibles ont été aménagés. Mais en plus, il y a une navette électrique accessible qui est disponible pour faire le chemin de haut en bas. Et il y a une croisière aux baleines qui est accessible aussi pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer.
Ça, c'est au parc Forillon.
Au parc d'Oka, qui est tout près. Il y a possibilité de louer de l'équipement qui s'appelle un hippocampe. Ouais. Un hippocampe, c'est comme une chaise adaptée avec des roues très larges.
Très grandes roues,
ouais. Ma belle-mère, on a essayé ça avec elle quand on était allé. Puis ça demande quand même un effort pour la personne qui pousse et c'est relativement bas. Alors pour une personne âgée, mais c'est quand même, on est quand même dans l'état d'esprit de pouvoir adapter les différents outils pour permettre à des gens de toutes sortes de conditions de pouvoir participer. Et ce n'est que de petits exemples de ce qui est disponible. Alors, c'est un guide, oui, pour les entrepreneurs, mais c'est un guide aussi pour les utilisateurs.
On le trouve où?
Sur le web, dans Kéroul, vous allez voir, faites une recherche dans Kéroul sur les nouvelles récentes.
R-O-U-L.
Oui, et puis voilà. À partir du communiqué de presse, vous allez au bulletin en question.
Au bulletin en question.
Avec toutes les fiches.
Très facile à trouver, oui.
Oui.
Merci beaucoup, Yvan Deslauriers.
Ça m'a fait un grand plaisir, puis j'ai vraiment découvert des choses.
Super.
Vous écoutez Aime l'été.
Est-ce que c'est le moment du babillard, Clotilde?
Non, c'est pas le moment.
Je pensais.
Non, ça, c'est à la fin de l'émission. Okay. Si nous reste un petit peu de temps, puis qu'on
avait.
Voilà. Non, c'est peut-être le moment de nous dire ce qui nous attend en troisième partie.
Ben oui, ça va être la chronique toponymie de notre bonne amie Christiane qui va être là. Puis également, une autre chronique qui est une chronique habituelle à l'émission
littéraire.
Aime la vie, la chronique littéraire dans un instant à Aime la vie.
Avec Yannick Olassa.
toi et le soleil par de Marathonians.
Merci beaucoup, Kevin. L'ami Christiane est en vacances, mais pro comme elle est, jusqu'au bout des ongles, elle se dit « Non, moi, je vais vous faire des petits topos, je vais vous les enregistrer. » Et vous savez qu'elle nous propose cet été, dans le cadre de MLT, des chroniques toponymiques. Hein, c'est comme ça, je pense qu'on devrait dire,
oui.
Qu'on devrait dire les choses. Et je lui laisse le soin de nous présenter de qui, de quoi elle va nous parler aujourd'hui.
Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques noms écossais présents dans la toponymie du Québec et du Canada. Plusieurs de ces patronymes sont très courants et on ne sait pas toujours en l'honneur de qui les lieux qui les portent sont nommés. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous parle des biographies les plus intéressantes. Je commence avec Simon McTavish, un magnat de la fourrure surnommé le Marquis par ses contemporains, à cause de son élégance et de sa personnalité. Écossais de bonne naissance, mais pauvre à son arrivée au Canada, il devient rapidement l'homme le plus influent du regroupement de marchands qu'est la Compagnie du Nord-Ouest. Cependant, ce n'est pas le plus aventureux. Normalement, pour faire partie du Beaver Club, qui est le club privé qui unissait les marchands de fourrure montréalais, il fallait avoir voyagé à l'ouest des Grands Lacs, la région qu'on appelait les Pays d'en haut. Mais il était si important, M. McTavish, qu'on a fait une exception pour lui. Il avait épousé en 1793 Marie-Marguerite Chaboyer, fille du marchand de fourrure Charles-Jean-Baptiste Chaboyer, qui était devenu son associé. McTavish est décédé en 1804. On trouve une rue McTavish à Terrebonne, où il avait une seigneurie, ainsi qu'à Saint-Bruno, en Montérégie. Une rue McTavish passe sur le campus de l'Université McGill, et le manoir de McTavish, sa maison de campagne, était justement situé à cet endroit. Tout près de là, on trouve aussi le réservoir McTavish, une des réserves d'eau souterraine de la ville de Montréal. James McGill est né en 1744 à Glasgow, en Écosse, et a aussi fait fortune dans le commerce de la fourrure. Membre du Beaver Club, il aimait s'y rappeler ses voyages dans l'Ouest en chantant, en français s'il vous plaît, des chansons apprises par les pagayeurs. En 1776, il avait épousé la veuve Charlotte Trottier-des-Rivières, née Guillemin, le fils aîné de son épouse, François Amab, devenant son associé et son principal héritier. L'Université McGill n'a pas été fondée directement par James McGill, mais grâce à son argent. À son décès en 1813, il lègue son domaine à l'extérieur de la ville, le domaine Burnside, et 10 000 livres à la Royal Institution for the Advancement of Learning. Le collège sera fondé en 1821 sous le nom de McGill College et connu aujourd'hui sous Université McGill. Dans les Laurentides, il y a un canton de McGill et il y a une rue McGill à Longueuil. À Montréal, James McGill a deux rues. La rue McGill à l'ouest du Vieux-Montréal et l'avenue McGill College au centre-ville près de l'université. Et par extension, il y a le métro McGill qui porte son nom. Toutefois, ce n'est pas lui, mais plutôt Peter McGill qui est dépeint sur le vitrail dans la station. Et qui est ce Peter McGill? Il s'agit du deuxième maire de Montréal, qui n'a pas été élu, mais plutôt nommé par le gouverneur en 1840. En effet, en 1836, la première charte de la ville de Montréal avait été suspendue à l'approche des rébellions, et lorsqu'on a établi la seconde, on a nommé un maire, McGill, en attendant les élections deux ans plus tard, élections auxquelles il ne s'est pas présenté. Peter McGill était né en Écosse sous le nom de Peter McKitchen. Il a changé de nom à 32 ans pour devenir l'héritier de son oncle, l'homme d'affaires John McGill. On trouve une rue Peter McGill dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et je n'ai pas trouvé aucune rue John McGill. Mackenzie est un nom de famille écossais très courant et on en trouve tout plein à la toponymie du Québec et du Canada. Et dans l'histoire du Canada, on trouve même deux Alexander Mackenzie qui ont marqué l'histoire. Le premier fut un marchand de fourrure et explorateur, et le second, premier ministre du Canada. Je vais vous parler un peu du premier que je trouve plus intéressant. Car qu'en plus d'être un commerçant de fourrure, Alexander Mackenzie a un rêve. Traverser l'Amérique du Nord pour se rendre jusqu'à l'océan Pacifique. Il fait un premier voyage en 1789, mais de mauvaises cartes font en sorte qu'il se dirige vers le nord et découvre plutôt un affluent de l'océan Arctique. Ce fleuve qu'il nomme River Disappointment ou Déception dans son journal s'appelle maintenant le fleuve Mackenzie. C'est lors d'un second voyage en 1793 qu'il arrive à atteindre le Pacifique, mais la dernière partie du voyage est un long et pénible portage. Encore une fois, Mackenzie est déçu car il n'a pas trouvé une route efficace pour le transport des fourrures. Mais ces récits de voyage sont publiés et leur lecture inspire le président américain Thomas Jefferson qui, en 1804, envoie les explorateurs Lewis et Clark traverser à leur tour le continent à la tête d'une expédition beaucoup plus célèbre qui souvent va éclipser l'exploit d'Alexander Mackenzie. Au Québec, on trouve une rue en l'honneur de Mackenzie l'explorateur, elle est à Boucherville. Mais à Montréal, la rue Mackenzie fut plus probablement nommée en souvenir de William Lyon Mackenzie, chef du Parti réformiste du Haut-Canada en 1837-1838.
On va s'endormir moins bête ce soir, hein, Kevin?
Non, moi, je suis vraiment déçu qu'il ait renommé la
moi
rivière
aussi.
River Disappointment, la rivière de la déception. Je trouve ça vraiment merveilleux. Tu sais, quelle belle anecdote, quelle belle...
Ah, comme... c'est superbe.
Précieux trophée pour cette région-là. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment dommage.
Alors, merci infiniment à l'ami Christian Campagna à qui on souhaite évidemment de bonnes fins de vacances et qu'on remercie pour ses chroniques toponymiques sur Canal M à l'émission M l'été.
je laisse durer le plaisir.
Jusqu'à la dernière seconde.
Ah, il me semble être dans la verdure, les pâturages, le golf, tiens. Sauf que les femmes, on a encore du mal à jouer au golf en Écosse. Et oui, il y a de la job à faire, les
amis. Je savais pas, hein.
Et oui. Mais il me semble faire une bonne partie de golf en Écosse.
En Écosse.
Puis après, tu prends un bon scotch.
Oui, oh. Ah, ça donne le goût, hein.
Semble que
en plus,
ça,
avec
c'est...
le petit vin écossais, là.
Ah! Il me semble que ça, c'est la vie. Ça s'appelait Bonnie Portmore, la chanson en question. Malheureusement, j'ai trouvé ça en faisant des recherches. Je ne sais pas quelle était cette délicieuse voix que nous entendions et qui nous a amenés pour faire suite à la chronique toponymique de Christiane en Écosse. Et là, on retourne ici au Québec et on y va avec Yannick Olassa qui nous présente une fois ou deux semaines un livre qu'elle nous recommande vraiment de lire et de se mettre surtout entre les oreilles. Bonjour Yannick.
Bonjour vous, comment allez-vous?
Bien, la vie est bonne. Est-ce que vous connaissez Kevin Breton qui m'accompagne aujourd'hui?
Bonjour.
Ben non, on n'a pas eu la chance de se rencontrer encore.
Ce sera une première.
Oui. Demoiselle Cactus.
Oui, Demoiselle Cactus. Écoutez, je ne sais pas si vous, ça vous arrive des fois d'entrer dans la lecture d'un roman sans en connaître la description.
C'est vrai que ça m'arrive rarement. Hein. C'est plus fort que nous. On va voir la quatrième de couve au moins, mais même moi, je m'informe. Oui, c'est
rarement.
On se laisse
rarement surprendre. Hein?
Oui, c'est vrai.
Ouais. Ben moi, une fois que je l'achète, que je le choisis, je lis rarement la quatrième de couve avant de lire le livre. Et là, ça faisait 3 ans qu'il était dans ma bibliothèque.
Oui.
Je l'avais pas lu. Alors, j'ai eu toute une aventure, je vous avoue.
C'est vrai? Grosse surprise, alors. Bonne surprise.
Ben, écoutez, c'est une surprise déstabilisante. Mais moi, j'aime ça.
Oui.
Je vous explique.
D'accord.
En fait, Mélisse, c'est une jeune femme dans la mi-vingtaine qui est affligée d'un trouble alimentaire. J'aime autant vous dire d'emblée que c'est pas un personnage dont on tombe amoureux au départ, et même pour certains, je vous dirais, à la fin. Elle demande beaucoup de temps avant d'être cernée. C'est pas parce que c'est mal écrit, non, pas du tout. Mais en fait, ça, je veux le préciser, hein, ça transmet ou transpire de la réalité des gens qui ont certains troubles obsessionnels compulsifs, notamment beaucoup de méfiance, beaucoup de difficultés à se livrer, à entrer en relation. Et quand on a un trouble alimentaire, ben
ça en fait partie.
Souvent, c'est combiné à un autre type de trouble.
Tout à fait. Minimalement un trouble anxieux. Hein. Alors, notre chère Mélisse aime pas les corps. Tout à son propos la dégoûte, la rebute. La chair n'est clairement pas son allié. Et l'amour non plus, d'ailleurs. C'est pas quelque chose qu'elle recherche. Pour elle, le côté guimauve fondante du romantisme là, et des sentiments, ça aussi, ça la dégoûte. Donc, elle n'est pas en relation avec... Elle n'aime pas être en relation avec les autres ni avec elle-même. Pourtant, quand on la rejoint à la veille de ses 25 ans, elle vit avec un homme plus âgé qu'elle. Je vous dirais, plus par nécessité que par amour ou désir de relation, bien sûr. Elle le surnomme l'autre. Donc, on ne sait jamais qui est cet autre. On sent déjà là, qu'il y a
c'est une version un petit peu moins sexy de l'autre moitié, ou tendre moitié. Quand tu l'appelles seulement l'autre, là, l'autre moitié,
ouais,
c'est moins romantique.
Hein? Oui, tout à fait. En fait, leur relation est plus comme de coloc que d'amoureux. Ils font chambre à part, ils partagent pas d'intimité, ils se fuient. Puis, à un moment donné, ben, l'intuition de Mélisse l'a fait douter de l'autre. Elle se demande qui est cet homme-là qui est mystérieux, qu'est-ce qu'il fait avec elle, un homme plus âgé, elle qui a un corps de fille, de petite fille, hein, à cause de sa boulimie. Elle a un corps d'enfant, elle voudrait rester enfant, puis elle se demande qu'est-ce qu'il fait avec moi, puis qu'est-ce qu'il fait de son temps quand il n'est pas à la maison, parce que de toute façon, même quand il est à la maison, il est dans sa chambre ou il va à son atelier. Alors, elle se lance là dans une recherche dans vraiment là, une expédition pour essayer...
Une enquête, quasiment?
Oui, une enquête, tout à fait, pour essayer de savoir ce que fait
cet homme.
Ce fameux autre-là. Je vous dirais que tout au long du roman, à travers les rencontres de groupes de soutien, où elle ne parle pas, mais elle écoute ses réflexions, ses interactions avec une de ses uniques amies qui est elle aussi atteinte de troubles alimentaires, elle nous relate son quotidien où elle prend ses médicaments, des fois elle les prend pas, elle dort beaucoup. Et ça permet à l'auditeur ou au lecteur, hein, tout dépendant du support qu'il utilise, de constater que à quel point c'est un problème qui est complexe et auquel, bien sûr, comme on le disait tantôt, il s'engreffe d'autres. Hein, comme dans toute compulsion, il y a toujours sous-jacent une anxiété puissante et on la retrouve vraiment dans ce roman-là. L'humour du personnage est vraiment caustique. Il nous entraîne dans sa psyché blessée à travers ses hauts et ses bas. Et je vous dirais que l'humour vient alléger certains sujets plus lourds, mais ces sujets lourds-là, là, puis je vais vous les nommer, je vais en nommer quelques-uns. On parle bien sûr de problèmes alimentaires, de pédophilie, de sectes, de drogue, de difficultés relationnelles, mais ils sont majoritairement traités en superficie. Il y a plus le trouble alimentaire et tous les mécanismes. De la psyché là, qu'on peut voir là, dans ce roman-là. Je vous en lis un petit passage.
D'accord, mais juste avant, je m'aperçois que nous n'avons pas cité le nom de l'auteur. Qui a écrit ce livre, Demoiselle Cactus? Demoiselle au pluriel, d'ailleurs. Hein?
Au pluriel, oui. C'est Clara B. Turcotte.
Et donc, c'est une Québécoise?
Oui, c'est
absolument.
Une Québécoise.
C'est un livre québécois, d'accord.
Ça a été publié aux éditions Le Méac. Alors, je vous lis
un petit extrait,
bout,
d'accord.
Là. C'est tout à fait moi. Je suis toujours attirée par les petits copains imaginaires, mais passablement dégoûtée par les hommes. Dans le fond, je suis pas mieux que les types qui commandent des poupées grandeur nature sur Internet et qui se créent une fausse relation avec le dit objet. J'ai toujours été coincée dans cet univers fantasmatique. Mon premier amour était un personnage manga. Ensuite, c'était les rockstars, les personnages de films, les vrais garçons que je voyais de loin, mais à qui je n'osais pas parler. Quand je suis devant la vraie affaire, je suis perplexe. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut aimer embrasser quelqu'un. Les textures, les odeurs, la salive. Et plus tard, la calvitie et le gros ventre. Je devrais peut-être avoir peur de devenir pédophile, moi aussi, l'équivalent féminin d'un vieux cochon qui sort avec des jeunes filles de la chair fraîche sans cellules pourries. Alors, ça, c'est un peu... Notre milice, notre demoiselle cactus, tout en épines, mais avec tout un message, une autre vision des troubles alimentaires. Alors, ceux que ça peut intéresser, ben écoutez.
Oui, mais bravo, je vous remercie parce que moi, je trouve ce que j'aime avec vous, ce que j'apprécie, c'est que vous nous arrivez toujours avec des textes qu'on ne connaît pas, avec des auteurs qu'on connaît moins bien, plutôt que de... Tu sais, on tourne en rond, j'aime pas cette expression-là, mais il y a ceux dont on parle beaucoup, et puis il y a tous les autres. Mmh. Ce sont vraiment sur les autres que vous vous concentrez, puis je l'apprécie beaucoup, Yannick, Yannick Olassa. Merci pour cette chronique. Oui.
J'ai pris le temps de vérifier sur le site du SQLA de BANQ, à savoir si le livre est disponible en version braille et en version sonore. Donc, il a aussi été enregistré ici chez Visez-Voix en version audio, si des lecteurs aveugles veulent y avoir accès. Et également en version braille à BANQ du Service québécois du livre adapté.
Merci Yannick.
Ce sont les filles de La Rochelle sur la Vignolon.
Oh, qui se frisaient leurs chandelles.
Sur la Vignolon, je tremblais la vignolette.
Bon Guy, sur la vigne des vignes, oh, buvons sur la Vignolon.
Bon Guy, sur la vigne des vignes, buvons sur la Vignolon.
Elle se frise à la chandelle sur la Vignolon.
Elle se frise à la chandelle sur la Vignolon.
C'est le curé qui les éclaire.
Sur la Vignolon, je tremblais la vignolette.
Bon Guy, sur la vigne des vignes, oh, buvons sur la Vignolon.
Bon Guy, sur la vigne des vignes, buvons sur la Vignolon.
C'est le curé qui les éclaire sur la Vignolon.
C'est curé qui les éclaire sur la Vignolon.
Il leur dit, vous êtes belles.
Sur la Vignolon, je t'en plais la vignolette.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Il leur dit vous êtes belle sur la vigne longue.
Il leur dit vous êtes belle sur la vigne longue.
À quoi sert-il d'être aussi belle
sur la vigne longue, tremblait la vignelette.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
À quoi sert-il d'être aussi belle sur la vigne longue?
À quoi sert-il d'être aussi belle sur la vigne longue?
Ce sera pour le mariage.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue. Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Ce sera pour le mariage sur la vigne longue.
Ce sera pour le mariage sur la vigne longue.
Le mariage et l'esclavage
sur la vigne longue, j'en plais la vignelette.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Le mariage et l'esclavage sur la vigne longue. Vaut mieux rester fille et garçon
sur la vigne longue, j'tendrai la vignelette.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
Bon Dieu sur la vigne des vignes, buvons sur la vigne longue.
À M l'été, on entendait les charbonniers de l'enfer, le vignelon.
Là, c'est le temps du babillard.
Là, c'est le temps du babillard. Hey, je vais faire ce cours, mais je suis tombé dans un article du journal Métro aujourd'hui au sujet des toilettes publiques qui sont nouvellement mises en fonction à Montréal. Une superbe initiative. Là, ça faisait longtemps qu'on les attendait. Ce sont des toilettes auto-nettoyantes, gratuites. Il y en a quelques-unes de situées à Montréal. Moi, j'en ai utilisé une pour la première fois près de Berry-UQAM. Elles sont accessibles, donc c'est la moindre des choses. Là, il n'y a pas de marche à l'entrée. C'est suffisamment large pour circuler en fauteuil roulant. Mais il reste qu'il y a des petits problèmes parce que bon, pour éviter, par exemple, que deux personnes se retrouvent à l'intérieur des toilettes et fassent des choses illicites, on a mis un maximum de poids, une sorte de balance à l'intérieur des toilettes. Ça ne doit pas excéder un certain poids. Le problème, c'est que quand quelqu'un rentre avec un fauteuil motorisé et qu'elle fait du surpoids, cette personne, et si en plus elle a besoin d'un accompagnateur pour l'aider, la porte ne se ferme pas. C'est un problème qui a été soulevé dans le journal Métro aujourd'hui à la suite d'un commentaire d'une utilisatrice. Donc là, il reste à voir si on va ajuster ce fameux poids-là pour permettre à tout le monde d'aller aux toilettes avec dignité.
Malheureusement. Hein?
Malheureusement.
Merci beaucoup, Kevin Breton, d'avoir partagé le micro avec moi aujourd'hui. C'était M l'été sur Canal M. À bientôt.